C'est le moment de retrouver l'interview de Matin Première menée par Robert Rouen. Nous sommes en ligne puisqu'il est bloqué dans les bouchons dans le centre de Bruxelles. Philippe Moreau, ancien bourgmestre de Molenbeek et ministre d'État, c'est à vous.
Bonjour Philippe Moreau.
Bonjour.
Et oui,
désolé de la situation, mais j'ai jamais vu ça.
Eh ben voilà, les bouchons bruxellois ont fait une nouvelle victime. Bientôt, on va faire les invités bruxellois à Namur. Ça ira peut-être plus vite d'aller prendre la 411 que de venir jusqu'à Reyers. Alors, Philippe Moreau, vous racontez dans un livre qui est publié aujourd'hui votre vie politique, ou une partie de votre vie politique.
Une partie,
hein, celui d'un fils de bourgeois, oui, entré ensuite au cabinet d'André Coles, puis devenu vice-premier ministre. Vous y présentez donc, comme vous venez de le dire, des portraits de vos amis politiques, parfois aussi de vos adversaires. 50 ans de vie politique en quelques portraits. On va évidemment en pointer quelques-uns, mais avant, un regard global, si vous le voulez bien. Philippe Moreau, sur la politique telle qu'elle est devenue, est-ce qu'elle vous déçoit ?
Bah oui, j'ai des moments de déception. On est dans une période extrêmement affligeante sur le plan international, sur le plan européen, sur le plan national. On ne peut pas le nier. Ben, comme je suis historien, je me dis que ce sont des mauvais passages et que j'espère que ça changera.
Et vous avez, en lisant votre livre, on a un peu l'impression que l'heure de gloire de la politique belge, où on savait notamment se parler entre Nord et Sud, est largement passée.
Oui, il y a quelque chose qui s'est déroulé, qui fait que des liens de confiance que l'on pouvait créer, même en étant adversaire, parfois adversaire pointu, ces liens, mais malheureusement, ils ne sont plus aussi forts. C'est des périodes, comme je viens de le dire, et un personnel politique peut-être moins ouvert que dans le passé.
Oui. Alors, on va pointer quelques personnalités que vous croquez dans ces portraits politiques, Philippe Moreau. On va peut-être commencer par celui qui est vraiment central dans votre ouvrage et qui était central dans votre vie politique, c'est André Coles. À un moment donné, vous racontez que, en étant dans son cabinet, vous alliez souvent à Liège au moment des grandes difficultés de la sidérurgie, dans des réunions syndicales avec lui, et vous dites... à l'époque, manifestement, c'était plus facile, même pour certains de vos amis socialistes, de parler avec des patrons qu'avec des syndicalistes. Est-ce que ça, c'est une tendance lourde, même au sein du monde socialiste, c'est d'avoir plus d'affinité avec le monde patronal que syndical?
Non, c'est pas plus d'affinité. Ce que j'ai dit, c'est que par rapport au monde syndical, qui était extrêmement vigilant et parfois un peu violent, on se souviendra peut-être de Robert Gillon quand il présidait les métallurgistes liégeois, l'atmosphère était évidemment beaucoup plus électrique. Un homme comme André Coles se trouvait très très bien dans ce milieu-là, d'autres un peu moins. Et alors, il y a certains politiques qui, finalement, dans les discussions feutrées avec le patronat, se trouvaient plus à l'aise. Mais ça, je crois que c'est une constante.
Oui, je vous cite Philippe Moreau. J'ai malheureusement constaté que certains de mes amis se sentent en état d'infériorité face aux chefs d'entreprise. Alors, la phrase qui suit est intéressante parce qu'elle fait écho à l'actualité. D'autres, heureusement moins nombreux, dites-vous, sont fascinés par l'étalage de l'argent et pactisent sans remords avec les nantis.
Oui, il y a une frange dans le monde politique qui a toujours existé et qui malheureusement existe aussi à gauche, qui a toujours eu cette tentation de l'argent. On en parle beaucoup aujourd'hui à travers un événement qui a révélé des choses assez incroyables.
L'affaire Publifine.
On ne rien faire. Ouais, absolument. Mais voilà, à des degrés divers, il y a toujours eu cette frange. Ce qui est dommage, c'est que au lieu de frapper durement cette frange, on a tendance alors à frapper tout le monde.
Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'à Liège notamment, même si vous, le Bruxellois, vous avez connu la réalité liégeoise avec André Coles à l'époque, mais est-ce que vous avez sentiment que ce qui a survécu à André Coles à Liège, c'est cette frange-là, cette frange qui pactise sans remords avec les nantis, si je vous cite, hein?
Oui, mais c'était pas du tout le cas d'André Coles.
Hein. Non, mais de ce qui lui a succédé.
Cas, mais...
De ceux qui lui ont succédé à Liège.
Enfin, certains, parce que Liège a aussi des gens merveilleux, hein, donc il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein.
Alors encore un mot sur André Coles. Vous évoquez évidemment sa mort qui était un moment difficile pour le Parti Socialiste et pour vous en particulier qui en étiez très proche. Et vous racontez qu'André Coles était en conflit ouvert avec Guy Spital, s'il rêvait de détrôner le calife, dites-vous. Il s'emploie à réunir une majorité capable de censurer Guy Spital. Sa tentative est brutalement brisée par son assassinat, créant une émotion sans précédent dans l'histoire du PS. Vous pensez que ça a un lien, que son assassinat a un lien avec sa volonté de détrôner Guy Spital?
Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait que c'était un assassinat politique. Maintenant, vous savez qu'on n'a jamais dépassé dans les gens qu'on a pu repérer le niveau des exécutants. Donc, je n'en dirai pas plus parce qu'il reste un grand mystère sur ce plan-là.
Oui, mais votre intuition profonde, c'est que c'est pas juste une histoire de jalousie d'Alain Vanderbiste, c'est qu'il y a plus et que sa volonté de déstabiliser peut-être Guy Spital est derrière tout ça. C'est votre intuition, on le sent dans votre livre.
C'est en tout cas, c'est à mon sens une lecture que je ne peux pas affirmer à 100%, mais qui, pour moi, n'est pas du tout... qui, malheureusement, n'a pas été suivi à l'époque par ceux qui faisaient l'enquête.
Oui. Alors, autre portrait qui fait écho à l'actualité, c'est celui d'Elio Di Rupo, que vous qualifiez de Janus sincère. Il faudra nous expliquer c'est ce que vous voulez dire par là. Et vous rappelez ce passage où Elio Di Rupo annonce la chasse aux parvenus, et vous dites « Je le soutiendrai pleinement dans cette tâche ». Est-ce que 10 ans après, vous dites pas que c'était du foin?
C'était pas du foin, mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Je crois qu'il faut dire des choses comme elles sont.
Ouais. Quand vous dites que c'est un Janus sincère, Elio Di Rupo, ça veut dire quoi?
Mais ça veut dire que, je donne un exemple, c'était assez fréquent, il nous faisait une analyse, finalement, de gauche, assez lucide, sur les rapports de force, et puis il nous disait, mais il faut tenir compte de l'actualité, des pressions, et de ce que nous représentons sur l'échiquier politique, et il proposait une politique qui avait l'air très éloignée de l'analyse qu'il avait faite. Alors certains, comme je le dis, avaient l'impression que, en fait, il nous roulait, si vous voulez, dans ces petites réunions. Moi, je pense que l'homme est complexe, et qu'il est habité à la fois par un sentiment, une volonté de coller au réel, de pouvoir influencer, et en même temps qu'il est capable d'une analyse intellectuelle assez pointue, mais qui est évidemment divergente de ce qui se fait.
Et comment est-ce que vous expliquez que la traque aux parvenus, elle ne soit pas allée jusqu'au bout du chemin, comme vous l'avez dit?
Oui, je pense qu'il y a un mystère derrière cela. Que je n'ai pas encore percé, mais qui, d'ailleurs, est peut-être une des choses qui sera le plus important à découvrir un jour.
Oui. Vous pensez que cette fois-ci, ça ira jusqu'au bout, au Parti Socialiste?
Je pense que, je ne sais pas, je pense que, en même temps, on va un peu trop loin. On finit c'est-à-dire qu'on prend, on veut prendre des mesures qui ne touchent absolument pas ce qu'on appelle les parvenus. On finit par ne plus permettre le moindre cumul, alors qu'il y a des cumuls qui sont sur le plan opérationnel utiles. Et voilà. Mais j'espère que, au-delà de cette espèce de course à celui qui sera le plus blanc, il y aura par rapport à certaines pratiques des mesures, elles, qui seront extrêmement précises.
Oui. Alors, sur Elio Di Rupo, vous expliquez qu'un beau matin, en tant que Premier ministre, il se retrouve les mains vides au niveau fédéral, après les élections. Il choisit, vous expliquez évidemment ça, de reprendre la présidence du Parti Socialiste et de passer du rôle de Premier ministre à celui de chef de l'opposition. Et vous dites, c'est une mue qui n'est pas évidente dans ce monde cruel. L'avenir nous dira s'il a réussi ce saut périlleux. Quand on voit les sondages avec le PTB à 18%, on est en train de dire qu'il a plutôt raté son saut périlleux, hein.
Mais écoutez, il a été très très vite la cible, et ça on aurait dû y penser, il aurait dû y penser, la cible des médias, disant mais comment est-ce possible, vous étiez au gouvernement, vous prôniez des solutions médianes, maintenant ceux-ci sont évidemment plus à droite, mais comment pouvez-vous vraiment, vous, être crédible dans cette matière-là? Et je pense que ça c'est une chose qu'il a poursuivie et qui l'a empêché d'être sans doute le redresseur d'un parti qui aurait dû être plus ferme dans l'opposition.
C'était un mauvais choix finalement?
Oui, aujourd'hui, je crois que c'était un mauvais choix. J'ai hésité, j'ai pas voulu non plus condamner, mais maintenant, avec le temps, je me dis oui, au fond, c'était pas un bon choix.
Ouais, l'avenir du PS, c'est pas Elio Di Rupo.
Oh, ça, je pense, j'espère, parce que l'homme est intelligent, qu'il va rebondir et qu'il va prendre les mesures qu'il faut. Mais vous me posiez une question sur le choix qui a été fait le lendemain du changement de gouvernement. Ouais.
À refaire, en tout cas, vous ne le referiez pas, et le Parti Socialiste, selon vous, ne devrait pas le refaire. Une dernière question sur Molenbeek. Oui. Vous n'en parlez pas dans ce livre, hein, puisque
non,
vous avez déjà consacré un livre à Molenbeek. Hein.
Deux livres.
Ben voilà. Mais il y a beaucoup d'auditeurs qui ne passent pas au-delà de Molenbeek, où vous restez une personnalité controversée. Toujours aucun regret pour Molenbeek, Philippe Moreau?
Ben, le regret de ne pas avoir pu continuer mon combat contre le radicalisme qui a malheureusement été mis sur le côté après mon départ.
Beaucoup de choses dans cette interview de Philippe Moreau. J'ai toujours pensé que l'assassinat d'André Kohl, c'était un assassinat politique. Sur les remous autour de l'affaire Publifine, il y a une frange dans le monde politique qui est fascinée par l'argent, y compris chez les socialistes. C'est dommage, on sanctionne tout le monde au lieu de punir cette frange qui pactise avec les nantis. Et puis, le PS a fait un mauvais choix. C'est un mauvais choix qu'Élie Di Rupo reste à la tête du PS après avoir été Premier ministre. Déclaration donc de Philippe Moreau, ancien bourgmestre de Molenbeek et ministre d'État ce matin sur La Première. Vous restez avec nous dans une vingtaine de secondes, c'est votre journal.
Matin Première, 6h-9h.